l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Grand Sud FM va parler aujourd'hui du téléphone. Alors non pas forcément le téléphone portable d'aujourd'hui, mais les téléphones d'antan, avec Bernard Chenot. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'association Ariscom et vous en êtes un des piliers, une des chevilles ouvrières. Dites-nous, Bernard Chenot, d'abord ce qu'est cette association. Elle s'adresse essentiellement, et on va comprendre, à des anciens de France Télécom.
Elle s'adresse à tout le monde, mais oui. Elle est constituée en priorité de salariés, d'ex-salariés des opérateurs historiques de la Poste et des télécommunications.
Et alors, elle a mis sur pied un musée du téléphone. Peut-être que des gens ne le savent pas. Il existe à Narbonne un musée du téléphone. Situez-le nous, Bernard Chenot.
Alors, il est situé au 38 boulevard Marcel Samba à Narbonne, hein, entre le Palais du Travail et le Collège Victor Hugo. Et il occupe les locaux de l'ancienne imprimerie Fernand Gauthier et Farge.
Voilà. Et alors, ce musée, on peut le visiter. Alors, en saison, il y a des horaires particuliers.
Voilà, on applique en ce moment les horaires d'été. Hein. On peut le visiter du mardi au samedi inclus, tous les après-midi de 14h à 18h30.
Donc mardi, samedi, voilà, l'après-midi. Et puis hors saison, si je puis dire,
hors saison,
il est quand même ouvert.
On a des horaires que l'on qualifie horaires d'hiver et on peut le visiter le samedi après-midi de 14h à 17h30.
Voilà, ça c'est toute l'année.
Toute l'année.
Alors Bernard Chenot, ce musée, donc, qui a été fait par cette association Ariscom, qui signifie, c'est un sigle qui signifie, je crois, bien les choses.
Oui, ça veut dire association de recherche historique sur les techniques de communication.
Voilà, donc recherche historique, ça indique comment vous est venue, il y a, j'imagine, un certain nombre d'années, l'idée de faire un musée du téléphone.
Voilà, il y a eu un grand salon des télécoms en 1985 au Palais du Travail à Narbonne, où l'on venait vanter les mérites du Minitel à l'époque. Et donc, beaucoup de salariés des opérateurs de la Poste et des télécommunications sont venus assister à cette présentation, à ce salon. Et ça nous a donné l'idée, à nous, salariés de l'opérateur historique, de créer une association en vue de récupérer et de mettre en valeur le patrimoine historique de notre entreprise.
Alors, le patrimoine historique depuis le tout début.
Depuis...
C'est quoi le tout début et à Narbonne, par exemple?
Alors, par exemple, à Narbonne, notre première action a été la reconstruction d'une tour télégraphe optique de Chappe, qui est en 1792. Claude Chappe, qui était un député à la Convention, était chargé de trouver un moyen rapide et confidentiel de transmission de messages d'État.
C'était le monsieur télécom de l'époque.
Voilà, c'était ça. Et donc, nous avons découvert une tour du télégraphe sur la ligne entre Narbonne et Perpignan. Elle est située sur le domaine de Jonquière, au-dessus du hameau de Rochegrise. Et ça a été notre première action. Et nous avons créé, reconstruit cette tour. Et elle a été inaugurée en 1989. Ça a été notre première action.
Alors ça, c'est l'époque moderne. Cette tour, elle a été opérationnelle à quel moment? Alors, elle utilisait des signaux optiques. C'est
voilà.
Tout ce qu'il y avait à l'époque.
C'est
quelle
ça.
Époque?
Alors, 1792, Claude Chappe est chargé de trouver un moyen
donc,
rapide
la révolution,
et
confié grosso modo.
Voilà. Et dès 1793, Claude Chappe va construire la première ligne entre Lille et Paris. Et tous les grands axes de communication en France vont être équipés de ce système qui était destiné à transmettre des messages pour les entités d'État qui étaient localisées dans les grandes villes et dans les villes
oui,
de chaque département.
C'était l'envoi de messages. Mais alors, c'était pas du Morse à l'époque. Il y avait
c'était des signaux optiques. Donc, dans chaque tour, il y avait des employés qu'on appelait des stationnaires qui étaient chargés de vérifier que les tours précédentes ou postérieures émettent un message, passent les bras articulés d'une certaine façon. Et les employés ne faisaient que répéter les signaux qu'ils voyaient. Et donc, grâce à des longues vues, on transmettait le message comme ceci.
Voilà. Alors, effectivement, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, évidemment. Combien, par exemple, entre Paris et Narbonne ou Perpignan fallait-il pour qu'une information nous parvienne ?
Alors, ce qui est significatif, c'est de comparer l'avant et l'après. C'est-à-dire qu'avant, c'était la poste à cheval qui acheminait les messages d'État, et un message pour venir de Paris à Narbonne, par exemple, mettait entre 6 et 8 jours. 8 jours. Avec ce système-là, quand il va être en fonctionnement, notamment à Narbonne, va mettre 4h30. Vous voyez le progrès considérable.
Donc 6 à 8 jours pour qu'une nouvelle nous parvienne, tout d'un coup, c'est plus qu'une question d'heure,
4h30 pour arriver à Narbonne de Paris.
Alors en effet, c'était déjà à l'époque un progrès considérable. Alors revenons-en donc, Bernard Chenot, à cette recherche historique. Vous avez envie de faire un musée, vous prenez votre bâton de pèlerin et vous partez à la recherche de matériel.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Et qu'est-ce que vous découvrez sur le terrain ?
Alors bon, écoutez, les premiers pas sont toujours un peu durs. Heureusement, j'ai bénéficié de la connaissance d'autres employés des télécommunications qui m'ont un peu aidé dans ma recherche, c'est-à-dire à m'aider à qualifier les appareils que je trouvais, voir si c'était des appareils originaux, si c'était des appareils trafiqués, qui m'ont un peu guidé. Et si vous voulez, petit à petit, et rapidement d'ailleurs, j'ai commencé à amasser des vieux téléphones et à les restaurer, à les mettre en valeur, si vous voulez.
Mais combien de temps entre le début et le moment où vous vous dites « ça y est, j'ai assez de matériel, je peux ouvrir un musée ».
En gros, il a fallu 7-8 ans.
7-8
ans pour dire, voilà, j'ai une collection qui va permettre déjà de faire une exposition qui va tenir la route, quoi.
Oui, voilà. À partir de ce moment-là, vous avez quand même de quoi montrer les choses.
Voilà, c'est ça.
Et alors, chez nous, par exemple, sur Narbonne, est-ce qu'on sait le premier téléphone qu'il a eu et où, à quel moment ?
Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que la première personne qui a eu le téléphone dans l'Aude est un monsieur d'Ouveillan qui s'appelait Théophile François d'Arnaudy, qui a eu le téléphone en avril 1890.
1890.
C'est le premier, la première personne, on ne peut pas dire abonné encore, puisque il n'y avait qu'une seule personne qui l'avait. Donc c'était en 1890. Il s'était fait placer une ligne téléphonique entre son domicile et son local commercial.
Mais c'était une ligne courte.
Oui, c'était des lignes filaires sur des poteaux et très courtes. Ensuite, le premier central téléphonique urbain qui a été créé dans l'Aude, il a été fait à Narbonne. Il a été créé en septembre 1892, soit 2 ans après la première personne. Et on a créé un central téléphonique qui était à l'origine installé à côté de la maison des jeunes de la culture, en haut de la place Salengro, en haut de la rue Gustave Fabre. Et les premiers pas de la téléphonie se sont faits avec 17 abonnés à Narbonne. En 1892, vous aviez 17 abonnés à Narbonne, dont la majorité était dans les professions du vin. C'était les personnes
aisées. Oui, c'était la grande époque viticole.
Voilà, et c'était les personnes qui avaient des moyens financiers assez considérables pour s'abonner et pour avoir le téléphone chez eux. Parce qu'il fallait considérer que le salaire d'un salarié moyen d'un an pour avoir accès au téléphone.
Ah oui, vous voyez, c'était un grand luxe.
Un grand luxe. Et les téléphones, à cette époque-là, étaient des objets d'art. C'était des objets placés en valeur dans la maison, comme une statue en bronze, comme si vous voulez, c'était des objets d'art.
C'était un signe extérieur de richesse.
Voilà, c'est exactement ça.
Et on va conclure là-dessus avant de revenir sur votre musée. À partir de quel moment ça commence à devenir, je dirais pas populaire, mais moins élitiste, le téléphone en France et chez nous?
Voilà. Alors, en France, ça va, dans les années 1900, dans les grandes villes, déjà, il va y avoir des équipements assez considérables. Puisqu'on va créer d'abord, dans un premier temps, les réseaux urbains. Dans chaque ville, on va créer des réseaux, avec des opératrices dans les centres téléphoniques, qu'on appelait les demoiselles demoiselle du téléphone. Et ensuite, on va créer les liaisons à partir de 1890-95, les liaisons interurbaines. C'est-à-dire qu'on va pouvoir relier.
Un réseau, quoi.
Voilà, c'est ça, le réseau de Narbonne à Marseille, de Narbonne à Toulouse et Bordeaux, de Narbonne à Paris. Et la grande, si vous voulez, le grand départ du téléphone, ça va être dans les années 1900-1920.
Voilà. Eh bien, on va conclure là-dessus et on va rappeler quand même, Bernard Chenot, l'ouverture de ce musée du téléphone à Narbonne pendant la saison déjà.
Voilà, donc c'est ouvert en semaine du mardi au samedi inclus, toutes les après-midi de 14h à 18h30.
Voilà, et puis bon, et le samedi après-midi hors saison.
Hors saison.
Et on finit par l'adresse.
Donc c'est 38 boulevard Marcel Samba, Narbonne. Et aussi on a un site internet que vous pouvez consulter, musée du téléphone sans accent en un seul mot .fr. Vous avez tout ce que vous devez savoir sur le musée du téléphone pour y venir.
Voilà, et donc vous nous en avez livré une petite partie.
Voilà.
Merci Bernard Chenot, donc membre de l'ARISCOM et notamment animateur de ce téléphone, de ce musée du téléphone à Narbonne. Merci à vous.
Merci Grand Sud FM.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.